Le journal, présenté par Stanislas Vazak.
Bonsoir. Nicolas Sarkozy mis en examen dans l'affaire d'un possible financement libyen de sa campagne de 2007. L'ancien chef de l'État a été placé sous contrôle judiciaire. Les explications d'Emmanuel Leclerc dans un instant. Grève et manifestation demain à la SNCF et dans la fonction publique. Journée test pour le gouvernement, confronté à des syndicats qui rejettent les réformes en cours. Invité de ce journal, l'universitaire Dominique Andolfato, spécialiste du syndicalisme. Aux Pays-Bas, les électeurs votaient aujourd'hui pour ou contre un projet de loi renforçant les pouvoirs des services de renseignement. Selon les premières estimations, le résultat de ce référendum est très serré. Nous ferons le point avec Pierre Benazé. Nicolas Sarkozy est sorti de garde à vue à Nanterre en fin d'après-midi avec à la clé une mise en examen et un placement sous contrôle judiciaire. L'ancien président soupçonné d'avoir bénéficié d'un financement libyen pour sa campagne présidentielle victorieuse, c'était en 2007. En l'état, la justice estime que le régime du colonel Kadhafi a pu financer cette campagne. Les explications d'Emmanuel Leclerc.
Après 24 heures de garde à vue inédite pour un ex-président de la République, après 5 années d'enquête des policiers de l'Office central de lutte contre la corruption, les 3 juges d'instruction en charge de ce dossier ont estimé qu'il y avait suffisamment d'éléments, de témoignages, d'indices graves et concordants pour mettre en examen ce soir Nicolas Sarkozy. Désormais, l'ex-président de la République est suspecté d'avoir organisé un financement illicite de sa campagne électorale de 2007, suspecté de corruption passive. Et puis un chef de mise en examen, là encore inédit sous la Ve République, pour recel de détournement de fonds publics libyens. De sources judiciaires, on affirme que Nicolas Sarkozy a nié l'ensemble des faits qui lui sont reprochés dans ce dossier tentaculaire et qui lui vaut cette nouvelle mise en examen et son placement sous contrôle judiciaire. L'ex-chef de l'État a quitté les locaux de la direction centrale de la police judiciaire à Nanterre à 20h10 précisément, sans faire le moindre commentaire.
Emmanuel Leclerc, merci. Rappelons que Nicolas Sarkozy est déjà mis en examen dans 2 autres dossiers. L'affaire Big Malion, liée au financement de sa campagne présidentielle de 2012, et l'affaire des écoutes, pour laquelle l'ancien président est soupçonné d'avoir tenté d'obtenir d'un haut magistrat des informations sur le dossier Bettencourt. C'est une nouvelle épreuve sociale qui s'annonce pour le gouvernement. Fonctionnaires et cheminots sont appelés à se mobiliser demain contre les réformes de la SNCF et de la fonction publique. Une journée d'action qui se traduira par des perturbations dans les transports et les écoles notamment. Dans la fonction publique, 7 des 9 syndicats représentatifs appellent à la grève. Les projets de réforme d'Emmanuel Macron inquiètent de nombreux fonctionnaires, Annabelle Grelier.
Il y avait déjà eu la promesse de campagne d'Emmanuel Macron de supprimer 120 000 postes d'agents publics d'ici la fin de son quinquennat. C'était rajouté le gel du point d'indice qui sert à calculer leur rémunération et le rétablissement du jour de carence en cas d'arrêt maladie. Mais quand le 1er février dernier, Gérald Darmanin dévoilait de nouvelles mesures, comme le recours accru aux contractuels, la mise en place d'une rémunération au mérite, l'instauration d'un plan de départ volontaire, ainsi que la fusion de certaines instances représentatives du personnel, la coupe était pleine. Et les fonctionnaires n'ont pas vu d'un mauvais œil le renfort des cheminots dans leur lutte contre les réformes de ce gouvernement. Christian Grelier, secrétaire général Force Ouvrière.
Il y a une attaque en règle sur le service public, sur le modèle social français. Donc, on se retrouve le même jour à manifester avec des cheminots, avec des agents d'aéroports de Paris ou autres. Ça ne pose aucun problème. Il faut essayer de faire entendre raison à ce gouvernement et j'espère qu'aujourd'hui, on aura du monde dans la rue, aussi bien chez les fonctionnaires que chez les cheminots et ailleurs. Donc, nous, on est en train de dire réussissons le 22, de manière à bien cranter les oppositions. Donc, si on réussit le 22, on sera en capacité pour la suite de faire un mouvement de plus longue durée si le gouvernement n'entend pas.
Les cortèges partiront séparés, mais les manifestants convergeront tous vers la Bastille. Le gouvernement, de son côté, voudrait aboutir à un projet de loi pour la fonction publique au printemps 2019. Il faudra déjà passer celui de 2018, un printemps qui promet d'être long.
Annabelle Grelier, merci. À la SNCF, le trafic sera très perturbé demain, selon les prévisions de la direction, avec seulement 40% des TGV en circulation, 25% des intercités, 50% des TER et 30% des trains régionaux en Île-de-France. Les 4 syndicats représentatifs appellent à la grève contre la remise en cause du statut de cheminot pour les nouvelles recrues. Et ce n'est qu'un avant-goût puisque le mouvement s'intensifiera à partir du 3 avril jusqu'à la fin juin. Il y aura 2 jours de grève tous les 5 jours. Invité de ce journal, Dominique Andolfato, professeur de sciences politiques à l'Université de Bourgogne, spécialiste du syndicalisme. Bonsoir.
Bonsoir.
Dominique Andolfato, est-ce que tous les éléments sont en place pour une forte mobilisation contre la réforme du gouvernement, notamment à la SNCF ?
Alors, pour demain, ça semble effectivement le cas, puisqu'en fait, la SNCF, personnel et cheminots, ont beaucoup mobilisé. On annonce beaucoup de monde dans la manifestation annoncée à Paris. Il y a eu des sondages internes à la SNCF il y a quelques jours qui indiquaient que 90% des cheminots étaient très hostiles à cette réforme. Et une fois n'est pas coutume, même l'encadrement disait vouloir participer à ce mouvement et en tous les cas ne pas prendre la relève des roulants qui seraient grévistes.
Est-ce que les syndicats peuvent se permettre d'échouer dans ces prochaines grèves, sachant qu'ils n'ont pas réussi à empêcher la réforme du Code du travail ?
Alors, c'est difficile de savoir ce qui va se passer par la suite. Vous savez, faire de la météo sociale, c'est extrêmement difficile. Ce que l'on peut dire, c'est que le contexte de ce printemps-là qui commence n'est pas du tout le même contexte que celui de l'automne dernier, où les syndicats avaient peiné à construire d'une part un mouvement unitaire et à faire poids contre la nouvelle loi travail, les ordonnances Pénicaud-Macron. Là, le contexte a changé. Les premières mesures du gouvernement sont connues, il y a certains impacts. On a vu qu'une certaine colère latente des retraités, on a vu dans différentes institutions, je ne sais pas, les EHPAD ou entreprises, Carrefour par exemple, il y avait une certaine colère sourde, enfin, voire plus que sourde, qui émergeait. On a vu le gouvernement également essuyer quelques difficultés sur le plan électoral, etc. Donc je pense que le contexte a vraiment changé. Maintenant, difficile de savoir si... ce mouvement aura le soutien de l'opinion publique, ça s'annonce plutôt mal de ce côté-là, compte tenu quand même d'un affaiblissement assez général des syndicats, ils arriveront à convaincre tous les collègues de travail de syndicalistes à s'engager dans ce mouvement. Il faudrait pas, si on se place du point de vue de la logique des syndicats, qu'il n'y ait que ce barreau d'honneur ou que ce coup de semonce dont je parlais tout à l'heure. Ce mouvement, je pense, aura un impact si les syndicats réussissent à l'inscrire dans une certaine durée.
Pour vous, il y a un risque de grève impopulaire, notamment à la SNCF ?
Oui, faut pas oublier que la grève, il s'agit de causer des dommages. Hein. Une grève, c'est pas un mouvement, c'est pas une promenade de santé, c'est pas un moment de vacances. Il s'agit de causer des dommages maximales à son employeur ou à ceux qui sont auteurs d'une réforme dont on ne veut pas. Donc forcément, une grève, et en tous les cas dans une entreprise de transport, va être problématique pour ceux qui ont besoin de prendre le train. C'est de ce point de vue-là, effectivement, cette grève peut essuyer assez vite. Il peut y avoir un rapport des syndicats de cheminots avec le public qui se tendent assez rapidement.
Justement, Dominique Andolfato à la SNCF, est-ce qu'on peut parler d'un front uni contre la réforme du gouvernement ?
Alors là, oui, côté SNCF, il y a vraiment un front uni. C'est pour ce qui explique d'ailleurs la particularité de ce mouvement qui semble un peu innovant, cette grève perdue, 2 jours, tous les 5 jours, qui commencera d'ici quelques jours. Demain, on n'est pas encore dans le mouvement de grève en tant que tel, c'est une espèce de grève d'avertissement demain. Et donc, on a innové justement, les syndicats ont voulu innover parce que certains voulaient se lancer d'emblée dans un mouvement dur qui s'inscrit dans la durée, comme les mouvements classiques à la SNCF ou dans certaines entreprises. Et d'autres, au contraire, voulaient plutôt négocier ou des grèves d'avertissement. Et donc, finalement, on a trouvé un moyen terme avec ces 2 jours de grève tous les 5 jours. Et c'est justement, ça a été le prix de l'unité syndicale.
Un conflit à la SNCF, ça reste un marqueur fort dans les luttes syndicales en France ?
Oui, c'est les grèves à la SNCF parce que les syndicats ils sont plus fortement implantés qu'ailleurs, parce qu'il y a une certaine culture syndicale, une certaine culture corporatiste que j'évoquais tout à l'heure. Donc oui, les grandes grèves de la SNCF, 86, qu'on a peut-être un petit peu oublié, 95, dont on se rappelle, plus récemment en 2014, en 2016, c'est quand même des mouvements sociaux importants. Et les grèves de la SNCF, ça peut être peut-être un petit peu amusant, ou je sais pas, c'est peut-être ou également un petit peu navrant, parce que c'est témoigne que finalement dans d'autres secteurs il y a peu de conflits. Les grèves des cheminots représentent chaque année de l'ordre de un quart, voire plus, de toutes les grèves en France. Il y a un côté, on pourrait presque dire que la SNCF est un peu le conservatoire de la grève, ou en tout cas d'une forme d'action collective, mais qui est la grève classique, mais cette fois-ci partie, donc les cheminots ont essayé d'innover. Et justement, tout à l'heure, vous me demandiez est-ce que ça ne va pas gêner les clients de la SNCF. Et justement, ces deux jours aussi, programmés sur 3 mois, l'innovation, elle est aussi c'est aussi le fait qu'on a programmé les choses pour que les gens puissent prendre leur disposition, etc. Donc, la SNCF reste un foyer de grève, mais cette fois-ci, il y a l'idée aussi qu'il ne faut pas que cette grève soit trop gênante pour le grand public. On ne veut pas non plus que pour les cheminots, cette grève ait un coût trop important. C'est pour ça également qu'on a rejeté un mouvement massif qui s'inscrirait dans la durée, etc. Parce que pour que les prélèvements sur les salaires soient pas trop importants. Mais on a jugé que finalement 2 jours tous les 5 jours, ça désorganiserait suffisamment l'entreprise pour que peut-être l'entreprise ou le gouvernement cède sur certains points au bout de quelques jours de grève.
Dominique Andolfato, merci d'avoir été l'invité de France Culture ce soir. Je renvoie à votre dernier livre, Syndicats et dialogue social, les modèles occidentaux à l'épreuve, ouvrage rédigé avec Sylvie Contrepoix, publié chez PIE Peter Lang. Qui succédera à Mathieu Gallet à la tête de Radio France? Ce premier élément de réponse aujourd'hui avec la liste des candidats retenus par le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Ils sont 6, 5 hommes et une femme, des profils divers puisque tous ne viennent pas du monde de la radio. Abdellah Khalidrissi, il y a tout de même un point commun, la convergence des programmes.
On retrouve dans les projets des candidats tous les grands thèmes évoqués ces derniers mois par les responsables politiques qui travaillent sur la réforme de l'audiovisuel public. On pourrait schématiser ainsi le projet type. D'abord, le constat de l'environnement dans lequel évolue Radio France aujourd'hui, un monde en mouvement, en pleine mutation. Du coup, la question de la transformation numérique revient systématiquement. L'innovation aussi pour accompagner Radio France dans un moment jugé au choix crucial ou encore exaltant. Aucun candidat n'oublie de reprendre également à son compte la nécessaire proximité avec tous les publics, notamment les plus jeunes. Les propositions formulées restent quand même générales. Les candidats exposent surtout leur stratégie globale. Le CSA va prendre connaissance de ces 6 projets et choisir les candidats qui seront auditionnés. Leurs profils sont assez divers. Il y a une seule femme, Sybille Veil, actuelle cadre de Radio France, donnée favorite selon l'AFP. François Desnoyers, consultant indépendant, est également passé par la direction de l'entreprise jusqu'en 2010. Un autre homme de radio, Bruno Delport, est candidat. Il est actuellement directeur de TSF Jazz. Il y a aussi un haut fonctionnaire, Christophe Tardieu, qui a exercé au Château de Versailles et à l'Opéra de Paris. Jérôme Batou, le plus jeune candidat, 39 ans, vient du monde de la communication. Et enfin, un lobbyiste pro-européen, Guillaume Clossa, connaisseur de la radio-télévision en Europe. On notera que 5 des 6 candidats ne sont pas étrangers à la politique et qu'ils ont eu des responsabilités dans des cabinets.
Abdellah Khalidrissi, merci. Les Néerlandais votaient aujourd'hui pour ou contre une loi qui élargit les pouvoirs de leurs services de renseignement. Il s'agit d'un référendum obtenu grâce à une pétition qui avait rassemblé 400 000 signatures. La loi vise à autoriser les services secrets néerlandais à accéder aux données des internautes dans le cadre d'enquêtes terroristes notamment. Nous sommes en ligne avec Pierre Benazé, correspondant au Benelux. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors Pierre, selon les premières estimations, les résultats de ce référendum s'annoncent très serrés.
Oui, très serré, beaucoup plus serré que ce que les sondages annonçaient. Les sondages estimaient qu'une majorité de Néerlandais, probablement 60% d'entre eux, allaient être favorables à la mise en application de cette loi. Or, ce soir, pour l'instant, les sondages de sortie des urnes, les bureaux ont fermé il y a 1h12 maintenant, les sondages de sortie des urnes affirment que c'est très serré, ils sont au coude à coude. Il y aurait 49% de Néerlandais favorables à la loi de surveillance, contre 48% défavorables, et la marge d'erreur est toujours de 5%. Ce référendum, en tout cas, sera valable puisqu'il faut, pour ces référendums d'initiative populaire, qu'on atteigne 30% de participation. Or, on est quasiment à 50% des électeurs. C'est déjà un gros chiffre. Ça veut dire que les électeurs se sont mobilisés sur ce thème de la loi de surveillance. Une loi de surveillance qui pose véritablement problème aux Pays-Bas, qui a en tout cas occasionné beaucoup de débats, car elle permet aux services de renseignement intérieurs et extérieurs d'intercepter et de surveiller toutes les communications sur Internet, par câble, votre télévision, votre téléphone, votre ordinateur, la totalité, et de garder ces données pendant 3 ans. Une loi qui devrait entrer en vigueur le 1er mai, si jamais ce référendum se prononce en faveur de sa mise en application.
Pierre Benazé en direct de Bruxelles, merci. Les Néerlandais votaient aussi aujourd'hui pour des élections municipales. On attend encore les résultats. L'un des enjeux de ce scrutin, c'est le score de l'extrême droite néerlandaise, notamment à Rotterdam. Au Pérou, où le président Pedro Pablo Kuczynski annonce ce soir sa démission. Le Parlement péruvien devait se prononcer demain sur une éventuelle destitution du chef de l'État. Pedro Pablo Kuczynski est mis en cause pour ses liens avec le groupe brésilien de BTP Odebrecht au cœur d'un vaste scandale de corruption. On termine avec la météo demain, toujours fraîche pour la saison sur un grand quart nord-est. Il pleuvra faiblement en plaine et il neigera sur les reliefs. Sur les autres régions, un ciel variable, mais les nuages gagneront du terrain dans l'après-midi. Température minimale gelée généralisée dans l'intérieur des terres jusqu'à moins 6 degrés à l'est. Les maximales iront de 4 à 15 degrés du nord aux régions méditerranéennes. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Caroline Ménéteau.